Nous voulons nous recueillir dans la prière. Ô Dieu notre Père en Jésus-Christ, en cette soirée du 10 juillet, nous venons à toi pour te demander de nous donner, par ta grâce, de nous nourrir de ta parole ce soir. Et que tous ces textes qui s'y trouvent ne restent pas dans les couvertures du livre, mais s'inscrivent en lettres de feu dans nos cœurs. Et que sans cesse dans notre vie de tous les jours, sa parole nous inspire. Nos pensées, nos paroles, nos regards, nos actions, afin qu'on puisse reconnaître la personne de Jésus en chacun de nous. Nous te remercions pour tous les exemples que tu nous donnes dans l'Écriture. Et ce soir encore, nous voulons te demander que tu nous conduises plus loin que Salomon, le thème de notre rencontre. Pour ta seule gloire. Amen.
Amen.
Je vous ai signalé que dans l'Écriture, on trouve plus de 300 passages qui nous parlent de Salomon, le fils de David, le troisième roi et le dernier roi au fond qui a régné sur tout le peuple d'Israël. Nous avons parlé de Saül, qui a été le premier roi sur ce peuple, qui l'avait demandé pour ressembler à toutes les nations. Vous avez chanter te ressembler Jésus. Mais il y a une foule de gens qui veulent ressembler au monde, ressembler aux nations, ressembler à tous ceux qui font n'importe quoi pour être à la même hauteur. Et pourtant, ils se privent du bonheur. Et le but de ce camp, c'est de chercher à ce que le Saint-Esprit vous convainque qu'il n'y a de bonheur qu'en donnant son cœur au Seigneur. Et ce soir, m'appuyant toujours sur la parole, dans un camp de famille, je voudrais vous dire à vos parents que vous devez vous demander ce que Dieu veut pour votre enfant. Nous avons vu que dans la famille d'Isaïe, le père de David, le père ne savait pas qu'il avait un fils qui allait devenir roi. C'était le dernier, c'était le petit. Alors on ne l'avait pas même invité à la grande rencontre où l'on devait recevoir Samuel. On l'avait laissé dans les champs. Et pourtant Dieu l'avait vu et avait dit, c'est celui-là que je veux pour roi. Le Père ne le savait pas. Par nous. Aujourd'hui encore, je vous en supplie. Tenez-vous devant Dieu pour vos enfants. Que veut-il pour votre enfant? Non pas qu'est-ce que je pourrais lui apprendre ou lui donner comme métier, mais qu'est-ce que Dieu veut pour mon enfant? Parce que Dieu a un plan pour tous les hommes. Nous avons lu hier le 8e enfant n'était pas à cette rencontre avec Samuel. Je voudrais aussi vous demander pour qu'on ne soit pas toujours troublé par le téléphone, que si vous le pouvez, vous demandez qu'on ne vous appelle pas pendant les réunions. Comment ? Alors, puisque nous devons parler de Salomon, je dis que nous allons envisager la naissance de Salomon, puis ensuite la formation de Salomon et la vieillesse de Salomon, en demandant à Dieu qu'il nous montre ce que nous pouvons apprendre de tout cela. Je veux croire que ce que nous avons vu hier soir est dans votre cœur encore, et que vous avez saisi que c'est quelque chose d'incroyable de penser qu'un homme qui était pourtant choisi par Dieu, qu'il ait pu faire ce qu'il a fait. Et je vous ai dit que nous vous parlerions ce soir encore d'un péché très grave que David a eu. Nous revenons au chapitre 12. Du deuxième livre de Samuel. Dans le chapitre 11, nous avons ce terrible récit qui nous montre comment David, roi selon le cœur de l'Éternel, a pu tomber. N'étant pas à sa place, il a eu une tentation terrible. Mais s'il avait été à sa place, elle lui aurait été évitée. quand un pays est en guerre, le roi doit être avec ses troupes. Et nous apprenons au chapitre 11, au verset 1er, que David, lui, est resté à Jérusalem. Et je voudrais vous souligner cela. Attention, demandons à Dieu que nous soyons là où nous devons être. Nous serons alors gardés. Mais David n'est pas à sa place. Il reste à Jérusalem. Il se repose. Puis le soir, eh bien, il se lève de sa couche, alors qu'il aurait dû aller se coucher. Et il se promène. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il a vu une femme belle qui se baignait. Et lui qui en avait plusieurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a désirée. Et comme il est roi, il a fait quelque chose de très mal, il l'a enlevé. Puis une fois qu'il l'a enlevé, il a su qu'elle était mariée. Est-ce que nous avons le droit de prendre une femme mariée? Comment est-ce que David a pu faire une chose pareille? Et aujourd'hui, chers amis, c'est sans cesse que ça se passe. Coucher avec une femme mariée, avec une autre femme que la sienne, ça se passe continuellement. Nous sommes dans ces temps de la fin où il n'y aura bientôt plus de remède. Et cette femme ne lui a pas résisté. Voilà les parents de Salomon. Un homme qui est marié, qui couche avec la femme d'un autre, qui la met enceinte, et qui veut cacher son péché. Parce qu'il a une réputation, il est le roi, il doit être un exemple. Et que va-t-il faire? Ben, il s'imagine que s'il fait venir le mari, qui est un de ses officiers, un de ses hommes forts, qui est sur le champ de bataille, s'il le fait venir, cet homme couchera avec sa femme, et peut-être que ça fera un prématuré de quelques mois seulement, un mois ou deux, et on pensera que c'est l'enfant du riz. Je ne vais pas me répéter, mais je voudrais que vous soyez bien pénétrés de toutes les combinaisons que l'on peut faire quand on est dans le mal, dans le péché. Pourtant, il connaissait son Dieu. Il avait déjà écrit plusieurs psaumes. Puis il en est là. N'ayant pas réussi, dans son intervention auprès du riz, il se met à écrire une lettre qu'il enverra par Uri, qui porte sa condamnation à mort sur lui, à Joab, le général de l'armée. Et on apprend bientôt sa mort. Qui a tué Uri? David. temple tombé si bas avec la connaissance qu'il avait. Eh bien, c'est pour vous montrer, Dieu nous a donné cet exemple pour nous montrer qu'il n'y a dans aucun homme quelque chose de bon en lui. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Pour que vous vous reconnaissiez pécheur, pour que vous vous reconnaissiez perdu, est-ce que vous devez tomber si bas? Ou l'exemple de David ne va-t-il pas vous servir? Voyez le résumé de tout cela. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Est-ce que nous voulons plaire au Seigneur? Ou est-ce que ça nous est égal? Alors il faut qu'un prophète vienne parler à David. Et c'est le chapitre 12. Nathan, je lis, vient vers David et il lui dit, il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail, en très grande quantité, le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses fils, elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein, elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre, la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au caduc la brebis pour avoir commis cette action, pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » En arrivé là, « Tu es cet homme-là. » Alors pendant tout un temps, David ayant succombé à la tentation, il ne pouvait pas prier, c'est évident. Il ne pouvait pas invoquer le Seigneur. Il était dans un mauvais état. Alors la vie de prière de David avait cessé. Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Quand nous avons manqué vis-à-vis de Dieu et que notre conscience n'est pas à l'aise. Et alors que faudra-t-il? Il faudra reconnaître notre péché. Et je me demande si cette semaine, le Seigneur ne veut pas nous faire reconnaître que sans lui, sans le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix, nous sommes perdus. Et nous avons lu ce que le Seigneur lui a dit encore. Tu as agi en secret. Moi, je ferai cela, verset 12, du chapitre 12, en face de tout Israël et en face du soleil. Nathan dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce qu'il y aura dans ce camp les personnes qui oseront reconnaître qu'ils ont péché contre l'Éternel? Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Voyez-vous, ce n'est pas pour vous culpabiliser que je parle, mais c'est pour vous amener au pardon de votre péché. Tu ne mourras pas. Il devait mourir. Il avait prononcé sa propre condamnation, mais l'Éternel lui dit qu'il ne mourrait pas. Mais parce que tu as fait cela, les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, peuvent blasphémer. Alors, le fils qui t'est né mourra. Et vous savez qu'il est mort. Et alors, qu'est-ce que David a compris à ce moment-là? Je lis le verset 24. Il a compris qu'il devait aller consoler la femme qu'il avait mise enceinte et qu'il avait maintenant épousée. Elle était sa femme. Il l'avait épousée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 34. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle, mais non plus dans la passion de la première fois, quand ce n'était pas sa femme. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon. Voilà d'où est né Salomon. Et qu'est-ce qu'il est ajouté? Qu'il fut aimé de l'Éternel. Oh, que vous puissiez repasser cela dans vos cœurs. Il fut aimé de l'Éternel. Et alors David le remit entre les mains du prophète Nathan, et on lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel, c'est-à-dire chéri de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de David? Des drames. Vous voulez beaucoup de femmes? Vous aurez peut-être beaucoup de fils. Mais que seront ces fils? Chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Un frère qui tombe amoureux de sa sœur. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jéhonadab, fils de Shimea, frère de David. C'était un homme très habile, et il lui dit, « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi ?» Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui dit, j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Voilà. Pourquoi on est malheureux? J'aime quelqu'un, et c'est quelqu'un que je ne peux pas épouser, c'est ma sœur. Et Jéhonadab lui dit, mets-toi au lit. C'est le malade. Quand ton père viendra te voir, donc David, tu lui diras, permets que ma sœur Tamar vienne vers moi pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que j'apprenne de sa main. Amon se coucha, il fut malade, et le roi vint le voir, David donc. Et Amon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire deux gâteaux sous mes yeux, et que je me nourrisse de sa main, David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amon, et prépare-lui de la nourriture. » C'est David qui va maintenant conduire au fond Amon à aller chez Tamar. Tamar alla dans la maison de son frère Amon. Elle obéit à David, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et des fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amon refusa de manger. Et il dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amon dit à Tamar, apporte-moi la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amon dans sa chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi. » C'est toujours ça. « Couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irais-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en !» Elle lui répondit, « Non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, « Chassez-moi celle-là, dehors, et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait une tunique multicolore, et c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira la tunique multicolore qu'elle portait, elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Ton frère Amon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Et alors, verset 21, le roi David apprit tout cela. Et fut très en colère. Mais qu'est-ce qu'il avait fait avant lui ? Comprenez-vous ? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Quel exemple avons-nous donné à nos enfants? Absalom ne dit rien à Amon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Et si vous continuez cette lecture, vous verrez que tous les fils de David ont péché. Verset 23. Deux ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hazor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici donc que ton serviteur a des tondeurs, que le roi et ses serviteurs veulent bien venir chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom, « Non, à Absalom, non mon fils. Nous n'irons pas tous, de peur que nous soyons à ta charge. Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller et il le bénit. Absalom dit, permets au moins que mon frère Amnon, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Et puis vous savez, la suite, Absalom donna cet ordre à ses jeunes gens, faites attention, quand le cœur d'Absalom sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amnon, alors mettez de la mort. Un frère qui va tuer son frère. Soyez sans crainte, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez forts et vaillants. On a chanté au sujet des hommes forts. Les jeunes gens d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors, tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Puis vous pouvez continuer et vous trouverez que les uns... assassiné par l'ordre de son frère Absalom, Absalom a dû fuir. On avait apporté une très mauvaise nouvelle à David en lui disant que tous ses fils avaient été tués, alors que c'était seulement Amnon qui avait été tué. Mais dans la famille de David, à cause de sa faute, ce n'a été que le trouble. Et Absalom, après un temps en Égypte, a été restauré, il a pu revenir, mais qu'est-ce qu'il a fomenté? Contre son propre père, il a voulu se révolter et devenir le roi à la place de son père. Et David a quitté Jérusalem, a fui Jérusalem, a traversé le Jourdain pour s'en aller jusqu'à Mahanaïm, un lieu qui s'appelait Mahanaïm, où il a eu de l'aide. Mais c'est là, à Mahanaïm, qu'hélas, Absalom, le criminel, qui était contre son père, a été lui-même tué par Joab. Seulement pour vous dire que les deuils n'ont fait que suivre les uns après les autres. Et Absalom est mort. Et quand David l'a su que son fils était mort, il s'est enfermé dans une chambre et il criait, mon fils Absalom, et il pleurait. Et j'abrège, vous lisez vous-même, alors qu'il disait, c'est moi qui aurais dû mourir. Et quand David était âgé, et qu'il savait que c'était Salomon qui avait été choisi par Dieu pour lui succéder, il a dû apprendre par sa femme Bathsheba qu'un autre fils le fils aîné, s'était fait couronner roi, Adonija. Parce qu'il avait dit, c'est moi qui serai roi. Et je vous lis dans le chapitre premier du livre des rois, au verset cinquième, ou déjà au verset premier, le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, qu'elle couche dans son sein, ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. On cherchera dans tout le territoire, on chercha dans tout le territoire, une belle jeune fille que l'on trouva. On trouva Abissag, la Sunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle soigna le roi et se mit à son service. Mais le roi ne la connut pas comme femme. Alors, c'est Adonija, fils de Haggith, une autre femme de David, élevait des prétentions en disant, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais, et là c'est le verset que je voulais vous citer, jamais, sa vie durant, David ne lui avait fait un reproche. Père, est-ce que vous osez reprendre vos enfants? Jamais, sa vie durant, David ne lui avait fait un reproche. On lui avait dit, pourquoi agis-tu ainsi? Adonija était en outre fort beau à voir, il était né après Absalom. Et alors, il a voulu se faire couronner roi. Seulement pour vous dire, voilà, les conséquences de la faute de David. C'est la ruine dans toute sa famille. Et à tout cela, il a ajouté ce dernier péché dont je vous ai dit que je vous dirai quelques mots. Chapitre 24 du deuxième livre de Samuel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita David contre eux en disant, va, fais le recensement d'Israël et de Juda. Alors le roi dit à Joab, son général, qui était chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, parcours donc toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on dénombre le peuple, ainsi je saurai quel est le nombre des hommes du peuple. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux de mon Seigneur le roi le voient. Mais pourquoi, mon seigneur le roi, désire-t-il faire cela? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée sortirent devant le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Yazer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tatim. Ils allèrent à Dan et aux environs de Sidon. Et alors verset 10, David, tout à coup, sentit battre son cœur. Je ne sais pas si vous avez senti battre votre cœur ce soir. Après qu'il eut ainsi compté le peuple, David dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en insensé. » Alors, ce que je vous demande, c'est de retenir ça. Quand vous péchez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas selon l'Écriture, vous agissez en insensé. Et vous ne pouvez pas être béni. David se leva le matin, verset 11. Et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad, le voyant de David, en ces mots. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un, et je l'exécuterai contre toi. Le Seigneur voulait le préparer à accepter une punition. Gad arriva chez David et lui rapporta ceci. Est-ce qu'il t'arrivera cette année de famine dans ton pays, ou bien trois mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivront, ou sera trois jours de peste dans ton pays? Maintenant, prends en connaissance et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et qu'a fait David? David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre la main des hommes. Là, il a choisi. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il voudra. Et l'Éternel, verset 15, envoya la paix en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret à cause de ce malheur et dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple, assez. Je voudrais que vous soyez persuadés que le Seigneur ne désire pas punir. Retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arona, le Jébusien. C'était là le lieu qui fut choisi pour construire le temple que Salomon a édifié sur l'ordre du Seigneur. Au verset 17, David s'adressa à l'Éternel, quand il vit l'ange qui frappait parmi le peuple, et il dit, voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis la faute, mais ce peuple, qu'a-t-il fait? Que la main, donc, de l'Éternel soit sur moi et sur ma famille. Acceptez la condamnation. Cette année de famine, trois mois de fuite devant les adversaires qui le poursuivront, ou sera-ce 3 jours de peste dans le pays? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Il manque 3 heures. Qu'est-ce qui les a subis ces 3 heures? Jésus sur la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, quand il était sur la croix, il a expié nos péchés. Et nous donne un entier pardon. Est-ce que vous pouvez faire confiance au Seigneur et lui dire, fais de moi ce que tu voudras, mais je t'accepte. Demain, Dieu voulant, nous considérerons l'enseignement que David a consacré à Salomon et ce que Salomon a fait de cet enseignement. Dieu notre Père, nous sommes devant toi. Nous voulons prendre ta parole au sérieux. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Ce que nous désirons, c'est obéir et te plaire. Dans notre vie personnelle, nous avons eu aussi nos tentations. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, et tu nous as rassemblés ici pour que nous prenions conscience de tout ce qui pourrait nous arriver, mais aussi de tout ce que tu voudrais faire pour nous épargner. Et nous voulons te bénir de l'avoir fait jusqu'à ce jour. Et te demander que ta seule parole nous prépare pour les journées à venir. Et que nous ayons individuellement une rencontre personnelle avec toi ce soir pour ta seule gloire. En Jésus. Amen. Et je priais en demandant à Dieu, donne-moi un jour de pouvoir annoncer l'évangile à toute ma ville, catholique aussi bien que protestant et athée. Et au lieu de cela, j'étais excommunié de ma communauté et pour ne pas faire une division, j'ai quitté ma ville avec mes 5 enfants. À ce moment-là. 30 ans plus tard, alors que j'étais au Canada, je reçois une lettre du gouvernement de Neuchâtel qui me dit, nous allons célébrer le 700e anniversaire de la cathédrale, qu'on appelle la collégiale à Neuchâtel, et nous voulons faire une série d'évangélisations pendant 18 jours, et votre nom a été retenu pour que vous veniez faire ce travail. 30 ans après ma prière, alors que j'avais dû partir, que je n'étais plus là, qu'est-ce que je devais répondre? J'ai répondu oui, et j'y suis allé. Air France m'a préparé mon billet. Et ils m'ont retenu une chambre au Méridien à Paris. Alors, j'allais pour faire des réunions d'évangélisation dans toute cette ville de Neuchâtel. Et ce soir-là, la veille du jour où je devais commencer, j'étais donc à Paris, je m'étais assis dans un fauteuil dans le salon de bas. Puis j'étais fatigué et je suis monté dans ma chambre. J'ai pas vu qu'une femme me suivait. Puis quand je suis arrivé devant ma porte, elle m'a dit, « Monsieur, je voudrais vous détendre. Je voudrais coucher avec vous. » Vous rendez-vous compte qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais dit oui? J'ai dit, « Mais c'est votre métier, madame. » Elle me dit, faut bien que je gagne ma vie. J'ai des enfants, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Je vais pas la faire entrer dans la chambre. Mais j'y entre quand même pour prendre un traité. Et je le lui donne. Avec la somme qu'elle demandait. Ça, c'est pour vos enfants. Elle est partie. Et j'ai prié pour elle. Mais croyez-vous que si j'avais succombé, que j'aurais pu prêcher? Impossible! C'était la dernière chose pour m'arrêter, pour que je ne puisse pas prêcher dans cette ville pour laquelle j'avais prié. Alors voyez-vous, toutes ces histoires qui vous paraissent bizarres, elles nous parlent. Et au moment où nous avons un obstacle ou une tentation, la parole est assez forte pour nous délivrer. Et je voudrais insister sur ce fait. Obéissez au Seigneur. Et vous serez bénis. Et souvenez-vous toujours de ces 3 heures de la croix où tous vos péchés ont été expiés. Dieu notre Père, encore une fois, nous voulons te dire notre connaissance de ce que tu es amour, de ce que tu ne nous abandonnes pas, de ce que nous pouvons compter sur toi. Alors que le jour approche, nous serons devant toi. Et où toute notre vie sera manifeste. Que cette vie de Salomon que nous allons méditer nous parle, prépare-nous. C'est notre cri ce soir. Qu'il y ait des âmes qui soient seules avec leur Dieu. Ta seule gloire. Amen.